Une heure sur Phare FM.
Phare FM.
La nuit autrement avec vous jusqu'à 5h.
Phare FM.
La Bible dit.
Jésus dit, mais je vous dis ceci, à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Will you stay with me? Will you be my love as the days get longer? Will you follow me? Never let me go. Let's keep dreaming. Dreaming as the sun goes down. Stars are dancing. Dancing as the world turns round.
When it's said and done, I'll keep holding on. Even in silence, I can hear your voice through all of the noise. Yeah, yeah. We'll keep dreaming. Dreaming till the sun goes down, yeah.
We'll keep dancing. Dancing as the world turns round and round and round and round. Dreaming till the sun goes down. I will stay with you. Your love as the nights get longer. I will follow you, never let you go.
Yeah, I keep dreaming.
Accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le point levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts, la vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis la cipa, le roi, malgré nos peines, nos différences, et toutes ces injures incessantes. Moi je lèverai le poing encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire. Le poing levé vers l'avenir, lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas.
Amel Bend, ma philosophie sur Phare FM. Il est 1h06 et on se retrouve pour vivre encore de bons moments ensemble avec tout à l'heure Pain de Vie. C'est Christian Gagneux qui va nous parler de Dieu est vraiment juste et bon. Et puis on va retrouver également les langages de l'amour où il sera question de l'illusion de l'amour. Et puis encore et encore de la musique, de la belle musique, Jodoc au bout de moi-même, c'est tout à l'heure. Et tout de suite Greg Zebel, Every Word You Say. Vous écoutez Phare FM. Je suis avec vous jusqu'à 5h et je vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de la radio Autrement.
Minuit 5h, la nuit Autrement
avec Mireille.
Who specialize in the medical I had need of? That's when you came along like a song never been sung. Hard to believe cause it's all been done. Still to this day you're the only one I can lean on. Yeah, I believe every word you say. Since you stole my heart away, how could it turn down the love? So unbelievable, like nothing I've ever seen. No, and like nothing I've seen before. Ooh, yeah. Right from the start, you were doing things differently, breaking me down with a love so sweet. Cut through my heart, but it didn't really bring me healing.
Qu'aucune victoire ne se gagne sans peine, sans vraiment savoir où tout ça me mène. Mes doutes veulent que je laisse place à la flemme, mais aucun rêve ne peut s'atteindre sans peine. Alors je cours sans relâche jusqu'à que mes larmes sèchent, que mes douleurs disparaissent. Je cours sans relâche de peur que mes regrets me rattrapent. J'irai au bout de moi-même, la tête haute dans la bataille. Il n'est pas encore né celui qui pourra m'arrêter. Et si j'en ai à douter, ou quand bien même je tomberai, une, deux, trois, dix, un fois, je me relèverai.
Il n'y a rien qui puisse m'arrêter.
Serait faux de dire que je n'ai pas peur. J'avance un peu plus après chaque erreur. Aucun but ne peut s'atteindre sans sueur. Je ne suis pas en recherche de vos honneurs. Et je n'ai pas dans mon vocabulaire. Je voudrais juste être quelqu'un de meilleur. Alors je cours sans relâche jusqu'à libérer mon âme des douleurs qui l'accablent. Je cours sans relâche de peur que mes regrets me rattrapent. J'irai au bout de moi-même, la tête haute dans la bataille. Il n'est pas encore né celui qui pourra m'arrêter. Et si j'en ai à douter ou quand bien même je tomberai, 3, 10, 20 fois je me relèverai. Il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Je cours sans relâche jusqu'à que mes larmes sèchent, que mes douleurs disparaissent. Je cours sans relâche de peur que mes regrets me rattrapent. Au bout de moi-même, la tête haute dans la bataille. Il n'est pas encore né celui qui pourra m'arrêter. Et si j'en ai à douter, ou quand bien même je tomberai, 1, 2, 3, 10, 20 fois je me relèverai. Il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Il n'y a rien qui puisse m'arrêter.
Par FM.
Pain de vie.
C'est Christian Gagneux qui va vous apporter le message spirituel que vous allez entendre maintenant.
Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre au sérieux ce que le Seigneur nous dit et réfléchir un instant sur l'importance de sa parole dans nos vies. Si Dieu nous parle chaque dimanche au travers de sa parole, c'est pour que, eh bien, nous puissions être ses lumières, ses témoins, et aussi vivre de plus en plus heureux et de gagner de plus en plus d'âmes. Amen. J'ai pris pour titre de message aujourd'hui « Dieu est-il vraiment juste et bon ?» Point d'interrogation. Et c'est vrai, je conçois, dans un milieu comme le nôtre, c'est un titre un petit peu provocateur. Parce que si je vous pose la question, est-ce que Dieu est juste et bon ? Voilà, l'immense majorité des personnes pensent que Dieu est juste et bon. Je le crois aussi de tout mon cœur, et Paul, dans l'Épître aux Romains, le dit également. Il nous dit au verset 14 du chapitre 9, « Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Certes, non. Néanmoins, je crois que lorsque les luttes et les combats nous atteignent, eh bien, les choses changent. Et si je vous demande de m'expliquer pourquoi Dieu est juste et bon, je pense que les choses alors sont beaucoup plus difficiles. Vous allez me répondre, mais Dieu est bon et juste parce qu'il nous a envoyé Jésus. Oui, certes. Mon but n'est pas de vous faire douter ni de philosopher sur la question, mais plutôt de faire grandir notre foi à tous. Pourquoi je pose une telle question ? Parce que je pense qu'au quotidien, elle nous est posée en permanence face aux différents événements de la vie de tous les jours. Et Jean vient de nous parler à l'instant de cette catastrophe qui a eu lieu à Haïti, 250 000 morts. Juste quelques années auparavant, nous avons tous entendu parler du tsunami gigantesque qui a fait plus de 300 000 morts. Dans les jours qui ont suivi ces catastrophes, il y a eu bien sûr de nombreux articles dans différents journaux en France, partout en Europe, aux États-Unis, dans le monde. Et souvent on lisait ce titre « Où est Dieu ?» Vous avez lu ces titres avec moi dans les journaux. « Où est Dieu ?» Un journaliste a même écrit en titre « Si Dieu existe, alors il n'est pas bon ». Posons-nous réellement les questions. En tant que chrétien, on peut être choqué par une telle affirmation. C'est vrai. Mais lorsque nous sommes touchés personnellement par la souffrance. Les pourquoi jaillissent de toutes parts. Les pourquoi viennent nous assaillir. Seigneur, mais pourquoi, pourquoi, mais qu'est-ce que je t'ai fait? On analyse notre vie dans tous les sens. Les pourquoi jaillissent de toutes parts et les non-réponses aussi. On ne comprend pas toujours ce qui nous arrive dans notre vie et parfois, il nous arrive de douter de la bonté de Dieu, de la justice de Dieu. Je suis juste, Seigneur, je ne vois rien d'injuste et pourtant je suis frappé par le malheur. On a du mal à admettre qu'un Dieu juste et bon peut permettre la souffrance. En réalité, nous croyons qu'aucun homme, en fait, ne devrait souffrir, ni souffrir de la faim, ni souffrir de la guerre, ni d'accident, etc. Parce que nous trouvons que ce n'est pas juste. Est-ce que vous trouvez que c'est juste qu'un enfant doit mourir? Qui trouve cela juste, humainement? Nous ne comprenons pas et nous avons du mal à comprendre. Alors on dit oui tous automatiquement, Dieu est juste et bon. Parce que nous croyons que Dieu est juste et bon, mais nous ne sommes pas capables d'expliquer face au malheur que Dieu est juste et bon. C'est difficile pour nous d'expliquer que Dieu est juste et bon quand le mal nous atteint. Notre première réaction est de se demander ce que nous avons bien pu faire pour mériter ce qui nous arrive et de remettre en cause la justice de Dieu. Et tous les hommes sont pareils. Je n'ai pas de réponse au pourquoi de mes épreuves et de mes douleurs, mais ma foi me permet d'espérer. Ma foi me permet d'être courageux, d'être consolé et de ne pas sombrer dans l'amertume et le désespoir. Pourquoi? Parce que par la foi, je crois que Dieu a des plans pour nous. Quelle que soit la vallée difficile que je suis en train de traverser, je crois que Dieu a un plan ou des plans. Je ne peux pas comprendre les plans de Dieu, mais je peux vouloir y adhérer avec mon cœur. Et en tant qu'enfant du Seigneur, je veux pleinement adhérer au plan de Dieu dans ma vie, coûte que coûte. Est-ce que vous pouvez dire ça dans votre cœur? Coûte que coûte, je veux adhérer, Seigneur, à tes plans. On ne connaît pas les plans de Dieu. On ne connaît pas à l'avance ce que Dieu a prévu pour nous, pour l'humanité. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'histoires qui nous font la démonstration de ce que je dis maintenant. Des hommes qui ont souffert terriblement, mais pour la réalisation des plans de Dieu. Un des exemples les plus frappants, c'est l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph, premièrement, était un jeune homme qui était rejeté par ses frères. Il était rejeté, on ne l'aimait pas dans sa famille. Combien de personnes souffrent justement de rejet dans leur vie, de manque d'amour, d'incompréhension? Combien de gens se sentent mal aimés et disent au Seigneur, mais Seigneur, ce n'est pas juste. Ce n'est pas bon pour moi. Ce n'est pas juste. Pourquoi on me rejette? Pourquoi ma mère n'a pas voulu que je vienne au monde? Pourquoi mes frères ne me parlent pas? Pourquoi mon père me bat? À tous ces pourquoi, on n'a pas de réponse humaine. Plus tard, à cause de la méchanceté des frères de Joseph, ses frères vont aller jusqu'à le jeter dans une citerne pour le faire mourir. Et puis un peu plus tard, il y en a un peu plus malin que les autres et dit finalement, plutôt que de le tuer, on peut encore faire du business et gagner de l'argent sur son dos. Combien de fois on vit des injustices pareilles dans nos vies, où on a l'impression d'être le mouton que l'on tond pour en prendre la laine? Je pense que Joseph, au fond de sa citerne, a dû crier à Dieu. Il a dû supplier le Seigneur. Il a dû crier à lui. Et Joseph n'a rien entendu. Et Dieu est resté sourd à son appel. Il n'a reçu aucun secours. En tout cas, c'est ce que Joseph devait penser à ce moment-là. Et il ne comprenait toujours pas le plan de Dieu dans sa vie. Et puis, Joseph a été vendu. Il a eu un temps de répit dans la maison de Potiphar. Il exécutait correctement le travail qu'on lui demandait de faire en tant qu'esclave et non pas en tant qu'homme libre. Il exécutait le travail. Il était un exemple dans la maison de Potiphar. Et de nouveau, les problèmes recommencent. L'injustice, le mensonge qui va l'emmener à connaître la prison. On a l'impression que l'injustice n'arrête pas de triompher dans la vie de Joseph. Combien de fois ne suis-je pas victime d'injustice dans ma vie ? Là encore, la question se pose, pourquoi Dieu n'a pas agi ? Pourquoi Dieu ne lui a pas fait droit par rapport à la femme de Potiphar ? Parce que Dieu avait un plan pour Joseph, mais plus que pour Joseph, il avait un plan pour deux nations, l'Égypte et Israël. Le plan de Dieu dans la vie de Joseph était de faire de lui un homme puissant. Et pour devenir un homme puissant, il a dû passer par là où il est passé, même si nous, humainement, on ne peut pas comprendre cela. Impossible à comprendre. Mais Dieu a fait de lui un homme puissant, élevé au rang de premier ministre, et de sauver de la famine deux nations. Si Joseph n'avait pas souffert pendant 13 ans, il ne serait jamais devenu cet homme capable d'instaurer la justice sociale, la guérison spirituelle dans sa famille et aussi à lui-même. Il a été entièrement restauré. En lisant dans le détail toute son histoire, on voit que toute trace d'amertume, toute accusation contre ses frères ont été estompées dans un premier temps, puis lavées complètement par le Seigneur. Les plans de Dieu pour les hommes. Dieu a des plans pour chacun de nous. Et dans les plans de Dieu, il y a Jésus. Jésus le Sauveur. La mort de Jésus, en relisant les évangiles et en relisant les textes sur la mort de Jésus, la mort de Jésus m'interpelle profondément. Et il y a des choses que je n'arrivais pas à comprendre lorsque je compare la mort de Jésus-Christ et que je compare la mort des martyrs tout au long de l'histoire de l'Église. Il y a une différence fondamentale que j'essayais de comprendre pendant tout un temps. Simplement, lorsqu'on lit l'histoire de l'Église, de tout temps il y a eu des martyrs et il y en a encore aujourd'hui. Les choses n'ont pas changé depuis le commencement. Il y a toujours cette pression diabolique de l'ennemi de nos âmes qui veut empêcher la réalisation des plans de Dieu dans notre vie. Dieu connaît toutes choses, il sait tout. Et dans l'histoire de l'Église, depuis le commencement, des hommes ont payé de leur vie. En lisant l'histoire de l'Église, on est parfois choqué de la souffrance qu'ont enduré certains martyrs. Et en analysant ce qu'ils ont souffert physiquement, on se rend compte qu'ils ont souffert encore beaucoup plus physiquement que Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Il y a des horreurs qui nous sont détaillées dans l'histoire de l'Église, dont je passe les détails. En lisant l'histoire de l'Église, en lisant l'histoire des martyrs, ce qui me frappe, c'est le message que laissaient les martyrs. Au moment de leur supplice, ils louaient le Seigneur. Certains chantaient des cantiques et glorifiaient le nom de Dieu. D'autres, eh bien, se permettaient d'haranguer la foule et de leur dire « Restez attachés à Dieu, ne perdez pas courage, on est en train de me brûler, je ne sens rien, ne vous inquiétez pas. » Et ils étaient remplis de joie, ils ne pouvaient pas l'inventer. La présence de Dieu était réellement sur leur vie à ce moment-là. Et ils annonçaient la puissance de Dieu et la gloire de Dieu en étant en train de périr. Certains ont été mutilés et ils restaient confiants. D'autres restaient dignes et silencieux face à leurs bourreaux. Mais rien que leur attitude était un témoignage. On dit même que Néron est devenu fou lorsque, pendant tout un temps, il avait décidé dans les jardins du palais de Rome, de se servir des chrétiens comme lampadaires. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? On enduisait ces hommes et ces femmes de goudron et on y mettait le feu. Et pendant des heures, ils brûlaient dans les jardins du palais de Rome. Et Néron devenait fou, vous savez pourquoi ? Parce que toutes ces personnes se mettaient à chanter, à louer le Seigneur, à la gloire de Dieu. Une attitude qui est extraordinaire, plus proche de nous. Lorsque vous lisez les récits du pasteur Wim Brandt qui a connu la persécution en Roumanie du temps de Ceausescu, il a écrit un livre qui s'appelait « Mes prisons avec Dieu ». Et dans ce livre, Bien sûr, il racontait ses souffrances, ses arrestations, les bastonnades, les supplices qu'on lui faisait subir dans la prison. Mais il y a quelque chose qui était frappant dans son livre. C'est qu'il disait que, à ce moment-là, il y avait une présence tellement extraordinaire du Seigneur dans sa cellule qu'il ne sentait rien et que le pardon était immédiat à l'égard de ses bourreaux. Et il louait le Seigneur. Vous savez ce que Wurm Brand disait à la fin de sa vie ? Lorsque des gens lui parlaient, il lui dit « Ce qui me manque le plus, mes amis, alors qu'il avait fini sa vie en tant qu'homme libre, complètement libre, il dira, dans plusieurs de ses écrits, plusieurs de ses lettres, il dira « Ce qui me manque le plus, c'est la présence de Dieu au moment où j'étais persécuté par mes bourreaux. » Difficile à comprendre lorsque l'on lit l'agonie de Jésus. Difficile, parce que pour Jésus, en lisant la parole de Dieu, c'est juste le contraire. On va lire ensemble quelques versets qui étayent ce que je suis en train de vous dire. Marc, chapitre 14, verset 33. Voilà ce qu'il est dit ici. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » On sent l'angoisse dans ses paroles, dans la bouche de Jésus. On sent que c'est un moment particulièrement difficile. Luc, lui, dit que Jésus était dans une grande angoisse et dépeint son état physique comme quelqu'un qui est en état de choc. Luc, chapitre 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ce phénomène-là est extrêmement rare et il est la preuve d'une angoisse terrible, d'une crainte terrible. Matthieu, Marc et Luc nous montrent clairement que Jésus essaye d'éviter la mort en demandant à son Père d'éloigner cette coupe. Prenons Luc chapitre 22 verset 41 où il est écrit ici « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Matthieu, chapitre 26, verset 42. Il est écrit là, « Il s'éloigna une seconde fois. » On sent le combat, on sent Jésus qui n'est pas tranquille, il part, il vient. Une seconde fois, il s'éloigne, il prie ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de toi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Deux versets plus loin, Matthieu 26, 44, il les quitta et s'éloigna, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Marc, chapitre 14, verset 36, il est écrit là, il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » Il croyait jusqu'au bout que le Père allait éloigner de lui cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En appelant Dieu Abba, en hébreu qui veut dire papa, on ressent ce cri d'enfant vers son Père et on mesure toute l'intimité qu'il y a dans la relation entre Dieu et son Fils Jésus. Sur la croix, contrairement aux martyrs, eh bien, Jésus n'interpelle pas les gens en les encourageant à venir à Dieu. Il ne les encourage pas en chantant des cantiques, des hymnes, en disant « je ne sens rien ». Non, au contraire. Voilà ce qui est dit dans Matthieu chapitre 26 toujours et au verset 46. Il est écrit là, « Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus s'est senti complètement abandonné par son Père dans les cieux. Alors pourquoi cette attitude qui est complètement différente de celle des pères de l'Église, des martyrs de l'Église ? Complètement différente. Jésus n'a pas reçu, contrairement aux martyrs, eh bien, cette visitation de l'Esprit de Dieu qui est venu le secourir et qui a soulagé sa douleur. Non. L'intensité de la souffrance de Jésus ne se trouvait pas dans le physique, mais dans le fait que Jésus se sentait complètement abandonné. C'est ce qui faisait souffrir le plus notre Seigneur. Se sentir complètement abandonné. Il vivait intensément la souffrance de la séparation avec son Père. Pourquoi ? Parce que cette séparation que méritait toute la race humaine, que je méritais moi, lui l'avait reçue à ma place. Et c'est pour ça que les martyrs pouvaient chanter. C'est pour ça qu'ils pouvaient ne rien sentir. C'est parce qu'ils ne souffraient pas de la séparation d'avec Dieu. La séparation n'était pas là, la présence du Saint-Esprit était sur eux à ce moment-là. La présence de Dieu était sur eux. Et c'est pour cela qu'ils pouvaient supporter les choses qu'ils enduraient physiquement. La présence de l'Esprit était là. Et pour Jésus, c'était l'inverse. La présence de Dieu s'était retirée pendant un court laps de temps. Le temps que Jésus porte le poids de nos nombreux péchés, de nos forfaits, de nos manquements. La douleur physique n'était rien comparée à l'abandon. Assurément, Dieu souffre d'amour en s'identifiant aux abandonnés et aux malheureux de la terre. Il aime le perdu et notre devoir à nous, c'est de racheter un maximum de perdus. La Bible nous montre que Dieu a accompli une mission de sauvetage pour toute l'humanité et pour moi aussi. Certains diront aussi que la mort de Jésus n'a pas arrêté le mal, et c'est vrai. C'est vrai, le mal est toujours autour de nous et le péché, les crimes, toutes les tueries, tout ce qu'on peut vivre d'injuste ici-bas, ça ne s'est pas arrêté. C'est vrai. Mais nous savons que depuis ce jour, Dieu nous aime et qu'il veut nous sauver de ce monde promis à la destruction totale. Puisqu'il est monté lui-même sur la croix porter un fardeau que personne d'entre nous ne pouvait porter. Personne ne pouvait porter le fardeau que Jésus a pu porter. Parce que lui seul était sans péché. Lui seul. C'est pour cela que Jésus lui-même va nous assurer. Il va nous dire dans Matthieu 11, verset 28, cette parole extraordinaire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En analysant ce qu'on a vu ensemble précédemment, cette parole prend une toute autre tournure. Matthieu, deux versets plus loin, Matthieu 11, 30, il va redire à tous ces enfants que nous sommes, « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et alors, pourquoi essayer de porter des fardeaux que nous ne pouvons pas porter ? Pourquoi se faire du souci, du tracas pour nos lendemains, pour nos peines, pour diverses choses ? Pourquoi se laisser emporter dans la spirale dans laquelle Satan aimerait nous mettre, en nous faisant du souci pour nos lendemains ? Si Jésus est assurément mon sauveur, je n'ai rien à craindre. Parce que le meilleur est devant moi. Le meilleur, c'est de vivre éternellement avec lui. Le meilleur du meilleur. Mais je crois aussi que déjà ici-bas, sur la terre, j'ai le droit de vivre le meilleur. Et le meilleur, c'est quoi ? C'est pas être riche, c'est pas profiter des biens de la terre, c'est pas cela le meilleur. Le meilleur, c'est de voir des âmes sauvées, des âmes se tourner vers Jésus-Christ. Ça, c'est le meilleur. De voir des âmes, des personnes guéries, sortir de leur lit, guéries, libérées. Ça, c'est le meilleur. Ce qui rend vraiment un homme heureux, c'est de voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Ça, c'est le meilleur. Et déjà ici-bas, on peut recevoir le meilleur. Jésus est appelé Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Il est avec moi. Même dans les pires des tempêtes, il est avec moi. Est-ce que cela veut dire que je ne vais pas mourir ? Non ! Mais je sais qu'en finalité, je sais où je vais. Et personne ne peut m'arracher ça de mon cœur. Personne ne peut m'ôter cette assurance, cette paix que Jésus met à l'intérieur de ma vie. Mes souffrances ne sont donc pas vaines. Lorsque je passe par des souffrances, par des injustices, par des incompréhensions, ce n'est pas vain. On l'a vu, Dieu a un plan. D'ailleurs, vous remarquerez que les gens qui sont touchés, peut-être par la mort d'un proche, la mort d'un enfant par exemple, au cours d'un accident, eh bien, souvent ces personnes vont réagir en essayant de prévenir. Je prends un exemple, je prends une image, quelqu'un qui perd la vie dans un accident de la circulation, un jeune homme perd la vie dans un accident de la circulation, eh bien, ses parents vont être bouleversés, bien sûr, par la perte, mais ensuite, ils vont se soucier comment est arrivé l'accident. Et on va tout faire, on va dénoncer les dangers potentiels qu'il y a à ce carrefour. Ils vont se battre, ils vont dénoncer, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Leur vie change. Ils prennent souci tout d'un coup de la vie des autres. Faut-il arriver à souffrir des peines immenses pour que nous puissions prendre souci de la vie des autres ? En acceptant le don de Jésus sur la croix, ma vie change. J'aspire à plus de justice. Je ne peux plus être indifférent face à tous ceux qui se perdent et qui meurent sans aucune espérance. Je ne peux plus. Je sais aussi que je ne souffre plus en vain et que ma peine se transforme en victoire. La parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. Je disais tout à l'heure, après mon titre, que le but, en fait, c'est de pas nous faire douter de la bonté de Dieu et de sa justice, mais nous emmener à plus de foi. La parole de Dieu nous dit à 4 reprises, le juste vivra par la foi. Une fois dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 4, dans le livre des Romains, chapitre 1, verset 17, dans le livre des Galates, au chapitre 3, verset 11, et dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, verset 38. Le juste vivra par la foi. Que veut dire l'Éternel dans cette déclaration ? Eh bien, je crois que le Seigneur veut nous dire, mais que je ne peux plus vivre comme avant, en acceptant Jésus dans mon cœur, en voulant, en cherchant à grandir dans la foi, je ne suis plus la même personne. Ma vie a changé. Cela veut dire que je ne peux plus vivre comme avant et que je suis devenu une nouvelle créature. Je ne peux plus vivre en comptant sur ma seule intelligence ou sur mes acquis sociaux ou mes biens, peu importe. Je ne peux plus m'appuyer sur ces choses. Je dois m'appuyer au contraire sur Jésus-Christ, sur la parole du Seigneur. Mon mode de vie doit changer. Je dois refouler le péché de ma vie. Je dois chercher la justice de Dieu et non pas la justice des hommes. Je dois chercher et rechercher sa face et entrer dans ses voies, dans ses desseins, dans ses plans. D'où nous vient la foi ? La parole de Dieu nous donne la réponse. Si Dieu insiste à 4 reprises en nous disant « Le juste vivra par la foi », c'est que c'est important, mes amis. 4 reprises, le juste vivra par la foi. D'où me vient la foi ? La parole de Dieu nous donne la réponse dans Romains chapitre 10, verset 17, où il est écrit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Une question, quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie quotidienne ? Quelle est la place de la Bible dans ma vie quotidienne ? Est-ce qu'elle a une place prépondérante ? Est-ce qu'elle est très importante ? Je me faisais la réflexion suivante hier. Je me disais, si la Bible avait autant de place que le téléphone portable, notre vie de chrétien serait complètement bouleversée. Imaginez un instant que, à la place de votre téléphone portable, vous ayez la Bible. Et que, eh bien, même vous allez au travail et tout d'un coup, tac, vous avez oublié la Bible et vous êtes prêt à revenir à la maison pour aller chercher ce que vous faites d'habitude quand vous avez oublié votre téléphone portable. Vous revenez à la maison pour chercher la Bible. Imaginez votre Bible à la place du téléphone dans la poche de la veste ou dans le sac à main. Plusieurs fois par jour, on sortirait, on jetterait un coup d'œil dedans et on recevrait des paroles encourageantes qui nous feraient du bien. Si par hasard on l'avait oublié à la maison, je l'ai dit tout à l'heure, on irait la chercher. Si on l'utilisait pour envoyer des messages à nos amis, imaginez un instant que vous ne pouviez plus vous passer de la Bible. Extraordinaire. On ferait des bons fantastiques dans notre foi, dans notre vie quotidienne, on vivrait des choses étonnantes. Avec la Bible, il y a toujours du réseau. Il n'y a pas de coupure. Et toujours du crédit, parce qu'il est payé par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Toujours du crédit. Pas de facture. Un crédit illimité. Mieux que le téléphone portable. Et comme bonus, la batterie est toujours chargée. Vous pouvez le laisser tomber, elle n'est pas cassée. Et comme vous êtes gentil avec moi, je vais vous donner quelques bons numéros à pratiquer. Si tu es triste, lis Jean 14. Si tu es énervé, tu lis le psaume 51. Si tu es inquiet, tu lis Matthieu chapitre 6, versets 19 à 24. Si tu es en danger, lis le psaume 91. Si tu es seul et apeuré, lis le psaume 22. Besoin de paix et de repos, compose Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. Et si tu veux connaître les secrets du bonheur, alors fais Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. Mes amis, c'est la foi qui va nous aider à traverser les épreuves de la vie. C'est la foi qui nous fera découvrir la réalité de la justice de Dieu et la bonté de la justice, la bonté de notre Seigneur. Le temps est venu de nous appliquer à vivre réellement par la foi. Le temps est venu de chercher la face de Dieu de tout notre cœur. Le premier commandement doit devenir une réalité dans nos vies, mes amis. Le temps presse, le temps est court. Le retour de Jésus est imminent. Les choses se précisent autour de nous. Et Dieu considérera les promesses qu'il a faites à ses bien-aimés. Il ne nous décevra jamais. Et nous pourrons avec joie et sérieux rester attachés à ces promesses faites aux hommes de foi, et seulement aux hommes de foi. Le juste vivra par la foi. Alors nul ne peut remettre la justice de Dieu en question, je termine par là, parce que personne ne peut remettre en cause son amour à notre égard. Et Christ en est le témoin. Personne. Il nous a donné Jésus son Fils, qui lui a souffert injustement pour nous et qui est mort sur la croix en portant mon péché et le péché de chacun d'entre nous. Simplement, je voudrais nous encourager les uns et les autres à chercher une nouvelle dimension avec le Seigneur. Oui, je sais que certains me disent ou me font dire « je suis devenu un extrémiste ». Vous savez, dans le mot extrémiste, il y a extrême. Et moi, je suis extrêmement heureux dans mon cœur d'appartenir à Jésus-Christ. Extrêmement heureux dans mon cœur de vivre ce que je vis et de plus en plus fort dans mon cœur. Et je me réjouis de la parole de Dieu parce qu'elle s'accomplit textuellement sous nos yeux. Elle est merveilleuse. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Merci pour votre écoute et si vous désirez commander le message que vous venez d'entendre, contactez votre radio locale.
Phare FM, une autre musique.
I locked the front door, turned in the keys. No need to hang on to what I no longer need. That old house is empty, it's a thing of the past. Darkness to light. Darkness to light. Freedom.
I'm lifting my eyes to the hope of my life for the very first time.
De Terian sur Phare FM. Il est presque 2h-10 et là je vous laisse une petite citation de Voltaire. La grande affaire et la seule qu'on doive avoir, c'est de vivre heureux. Mais parfois on se pose la question, comment vivre heureux? Pour moi, vivre heureux, c'est parfois tout simplement faire une balade en forêt. Ça me fait tellement de bien et j'ai envie de louer Dieu pour la beauté de la nature. Vivre heureux, ça peut aussi être, par exemple, restaurer des relations. Ça demande un effort, mais ça fait aussi tellement de bien. Alors oui, la grande affaire et la seule qu'on doit avoir, c'est de vivre heureux et de réfléchir comment mieux vivre et comment aussi retrouver et reconnaître les petits bonheurs de chaque jour. C'était la petite minute, une idée de bonheur par jour et je vous propose de poursuivre avec Josh Garels, Born Again et tout de suite Zao de Zagazon et la chanson La Symphonie des Éclairs. On retrouve ensuite les langages de l'amour où il sera question de l'illusion de l'amour, toujours sur Phare FM dans la nuit autrement. À tout à l'heure.
Au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil. Je ferai gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie, la symphonie des éclairs.
Child, use my voice to hide with the ghouls of night in the dying light. I had to learn to get what I need in the dark. Empty instincts all guiding me like a beast to some blood.
De l'amour.
L'expérience de l'état d'amoureux qui mène la plupart d'entre nous au mariage est une obsession émotionnelle qui nous conduit à la conclusion que nous avons épousé la personne la plus merveilleuse au monde. C'est une illusion, mais ça semble réel et c'est une des plus grandes euphories émotionnelles de la vie. Mais pourquoi cela ne continue-t-il pas après le mariage? Parce que c'est une illusion. Voilà pourquoi, avant le mariage, votre mère voyait les défauts, mais pas vous. Votre mère vous disait « Chérie, as-tu pris en considération qu'il est toujours en retard ? » Votre réponse, c'était « Oh maman, ça n'a pas d'importance. Il est si drôle quand il finit par arriver. » Mais quand l'illusion disparaît, ça a de l'importance. Et vous vous mettez à dire « Pourquoi es-tu toujours en retard ? » Il est éberlué. Il n'a pas changé. C'est simplement l'illusion qui est partie. L'illusion d'être amoureux est temporaire. Sa durée de vie est d'environ 2 ans. Ça ne veut pas dire que l'amour est destiné à mourir. Mais ça veut dire qu'il faut se mettre à l'œuvre pour le garder en vie.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Maudit de Chicago, en partenariat avec Phare FM.
Phare FM, la vie a un son.
I was blind, now I'm seeing in color. I was dead, now I'm living forever. I had failed, but you were my redeemer. I've been blessed beyond all measure. I was lost, now I'm found by the Father. I've been changed from a ruin to treasure. I've been given a hope and a future.